chaud pour tout le monde et qui, de plus, coïncide avec des déclarations qui ont été faites par le président de la République, d'une manière assez surprenante, comme à son habitude, où il annonçait que il allait proposer la construction de réseaux express régionaux, entendant par cela l'acronyme RER, qui allait être dans une dizaine de villes françaises pour que les villes de nos régions aient les mêmes bénéfices que ceux de la capitale de notre pays. Alors, la raison invoquée, c'était il y a des embouteillages dans les villes et on va supprimer les embouteillages avec le RER. Donc, je voudrais que l'on ait une réflexion sur ces problèmes de mobilité, sur ces problèmes de transport. Et comme vous le savez, je ne crois pas à des solutions miracles. Et alors là, on propose toujours des solutions miracles, à la fois en efficacité et aussi aujourd'hui, puisque c'est la mode, avec demain, on lavera plus vert, on va être vertueux avec des modes de déplacement qui vont être, alors les qualificatifs, on les connaît, qui vont être doux, décarbonés, faire du bien à la planète, etc. Donc les choses ne sont pas simples et je ne crois pas qu'il y ait des solutions miracles. Et il serait peut-être intéressant de se rappeler le passé récent, parce que cette faculté de transport est un phénomène que l'on oublie dans sa contemporanéité, et du moins accessible à tout le monde, et c'est de cela dont on parle. Mais même si dans les temps anciens, les transports à grande distance étaient ceux d'une minorité de gens, ils étaient extrêmement difficiles, inconfortables, et tout cela jusqu'à une période assez récente. Il faut si je me permettais de critiquer du moins la SNCF, il ne faut pas oublier le grand progrès qu'a été le train. Il faut s'imaginer qu'au 19e siècle, il n'y avait donc pas d'automobile et le transport était le transport avec des diligences, avec des calèches, avec à pied et on n'avait absolument pas les charrettes n'ont rien à voir avec les camions. On avait aussi les routes qui n'étaient pas bitumées et on avait une très grande difficulté pour se déplacer et le coût du transport était quelque chose d'absolument phénoménal. C'est-à-dire que, par exemple, une charge de matériaux qui n'étaient pas très chers, comme le bois ou le charbon, qui devait être transporté avec évidemment des charrettes tirées par des chevaux. On avait le prix du transport égalait le prix des marchandises sur une distance très rapidement de 50 km, évidemment suivant les trajets. Donc c'est un problème qui aujourd'hui évidemment n'existe plus, puisque on transporte à travers le monde par des containers et par différents processus de transport, et on ne se rend plus compte justement des distances, si ce n'est que quand on a cette obligation de voyager, qu'on se trouve coincé, si je me permets, par des grèves, des accidents techniques et des impossibilités de déplacement. Alors, pour revenir à du progrès qu'a été la SNCF, il faut s'imaginer, enfin la SNCF qu'a été le train, pardon, le progrès est très important. On allait rouler sur des rails, c'est-à-dire qu'on était sur des routes sans chaos, des routes qui étaient sans le fracas, le vacarme, le danger de rupture d'essieu et ou de roue, c'était quelque chose qui était évidemment probablement pour les premiers transportés en train un bonheur ineffable dont évidemment nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Donc la voiture automobile évidemment arrive bien plus tard, elle est d'abord réservée aux riches au début du XXe siècle et aussi l'invention du pneu, c'est-à-dire que les voitures étaient aussi assez inconfortables vu l'état des routes. Et vu aussi le système de roues, et il faut attendre donc assez tard, dans les 30, où vraiment on a le pneumatique moderne et aussi le développement du macadam sur les routes qui rend les surfaces lisses et sans chaos et sans accident. Alors, tout ça pour dire que le transport en commun par chemin de fer, qui apparaît aujourd'hui comme une solution miracle parce que c'est supposé être vert. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on met cette étiquette, c'est comme un mot magique, ça devient écologique et ça devient vert. Donc il faut quand même réfléchir à cela. Alors il est évident que quand on parle de vert et quand on parle d'environnement et d'écologie, on pense à l'économie, on pense à la pollution. Alors il est vrai que le transport en train, sur un train qui va être rempli, par rapport à une succession, par rapport à l'équivalent qui va être au niveau des voitures, bon, ça paraît effectivement beaucoup plus rationnel, beaucoup plus économique de transporter un grand nombre de personnes dans un seul convoi qu'une multitude de personnes en voitures séparées. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce que le réseau de train ne peut pas desservir effectivement tous les villages, ne peut pas desservir toutes les maisons, bien sûr. Donc on est sur un système qui est forcément assez complexe, avec différents modes de locomotion qui doivent être ajoutés. Je vais prendre par exemple l'exemple du fret. On dit effectivement le fret dans un train, ça paraît beaucoup plus logique d'avoir un train avec des wagons qui sont dédiés au transport de marchandises que d'avoir des camions sur la route. Évidemment, à première vue, mais il ne faut pas oublier que pour amener les marchandises à la gare, ben, il faut un camion que l'on décharge pour charger le train, et puis il faut décharger le train à l'arrivée avec un camion qui va rapporter et distribuer les marchandises. Donc les choses ne sont pas simples, parce que si aujourd'hui on voit que le fret plafonne, et le fret ferroviaire, et c'est qu'effectivement il est en concurrence avec des camions qui aujourd'hui ne roulent pas à vide, par exemple pour le retour, et avec justement la logistique et l'informatique, cela permet d'avoir des remplissages optimisés et une distribution tout au long d'un parcours, et les camions ne roulent jamais à vide parce qu'ils sont re-remplis et on a une distribution extrêmement souple. Donc je ne prêche pas pour un système ou pour un autre, mais en tout cas je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle en la matière. Alors pour revenir à l'histoire du train qui est vertueux quand il est plein, mais il ne l'est plus quand il est vide. Et le train qui est vert, par exemple, pour parler des TER, les transports express régionaux que l'on voit dans nos campagnes, mais regardez les passer, dans le matin, effectivement, ils sont pleins, ils sont pareils au retour quand il s'agit de ramasser des gens sur un axe pour les amener à un lieu de travail, ou une gare en tout cas qui va dispatcher vers les lieux de travail. Mais dans la journée, il y a un rythme et ils sont, si ce n'est vide, en tout cas, ils ont très peu de personnes. Donc, la vertu des déplacements pendulaires du matin et du soir est grandement ébréchée par les trains qui roulent à vide. Et si les trains roulent à vide ou avec quelques personnes, le coût du transport de ces personnes est prohibitif. Et il faut pas oublier que les trains ne roulent pas au vent. Ils roulent avec de l'électricité, donc avec de l'énergie, et l'énergie, comme vous le savez, bah ça dépend, bah ça peut, ça dépend aujourd'hui avec l'arrêt des centrales, des centrales nucléaires, on se trouve avec des problèmes sérieux d'énergie et les trains emploient beaucoup d'énergie avec les ballasts et les réseaux électrifiés. Donc tout cela n'est pas simple. Donc ce mot de vertu me paraît pas approprié parce que comme je vous disais pour le fret, mais il s'agit de la même chose pour les personnes. On est obligé d'avoir plusieurs modes de transport parce que le train ne peut pas suffire. Donc il faudra ou un taxi ou des covoiturages ou des voitures individuelles avec des parkings. Enfin, tout cela est assez compliqué pour que les gens puissent aller de leur domicile à un autre lieu et on ne peut pas faire un maillage de train plus dense que celui qu'il est. Donc je suis un peu surpris par cette annonce présidentielle qui est reprise par beaucoup de politiques et surtout le fait que on annonce et on promet que l'on va supprimer les embouteillages. Alors il faut rappeler un point très important, c'est que de quel embouteillage parle-t-on? Parce que les embouteillages sur la rocade, je ne vois pas comment ils pourront être supprimés par le train, parce que d'abord le train existe et il y a des déplacements obligatoires en voiture individuelle. Alors on peut trouver effectivement des transports en commun qui se développent avec le métro, le bus, etc. Mais en fait, les problèmes d'embouteillage de la rocade toulousaine, par exemple, mais c'est un phénomène qu'on va retrouver dans les autres villes. À Montpellier, il n'y a pas justement de rocade circulaire. On se trouve dans des embouteillages assez importants parce que l'autoroute, en plus, sert de fragment de rocade. Bon, dans le cas de Toulouse, le problème des accès, ben, c'est surtout les accès qui vont être ceux des zones d'emploi importantes où on a disons une dérivation très étroite qui fait qu'il y a embouteillage sur la dérivation qui n'est pas à l'échelle du trafic et évidemment ainsi l'embouteillage remonte sur la rocade parce que effectivement la sortie n'est pas suffisamment importante. Donc il y aurait, je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas à envisager une rationalisation à ce niveau-là que de penser, en tout cas ce serait à mon avis plus simple que de penser à des investissements phénoménaux comme on pense de ces réseaux express régionaux. Donc on va marquer une pause musicale et on va reprendre ces propos sur le transport.
Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève. La plainte douloureuse d'un chien qui aboie. Le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, l'on est face à soi. Les frissons où l'amour et l'automne s'en mêlent. noir où s'engloutissent autrefois nos lois. Cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes quand même on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures aux regrets qui se livrent à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces liens que l'on sécrète qui joignent les êtres, ces désirs évanés qui nous feront aimer, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard.
Comme vous le savez, le titre de cette émission est « Où vivrons-nous demain ?». Alors, il s'agit d'une interrogation un peu ironique qui a été tirée d'un livre de Michel Aragon, dont c'était le titre, je pense que c'était en 1964, donc vous voyez, il y a vraiment quelques temps déjà. Et cet auteur, tout à fait pertinent dans son domaine, qui était justement l'architecture, l'urbanisme, pour laquelle il était un critique avisé, un très bon connaisseur, il avait fait un livre sur la prospective et sur le futur. Et en fait, on peut dire que la totalité, si ce n'est la quasi-totalité de ces propositions et ces hypothèses sur le futur qu'il positionnait à moyen terme, donc à l'époque c'était 20 ans après, donc de 1960 dans les années 80, et puis jusqu'à la fin du siècle, en fin de compte, pas une de ces propositions, autant sur les villes, sur l'habitat, que sur les transports, ne s'est réalisée. C'était évidemment une approche très futuriste, et Et quand je vois aujourd'hui que nous annonce que le vélo est l'avenir du transport, évidemment, on est assez loin des propositions de l'époque de Michel Ragon. Alors, Michel Ragon, il faisait aussi, à l'époque, appel aux experts, les experts. Il disait, les experts sont tous d'accord, les experts dans ce domaine, et en fait, les experts se sont trompés sur toute la ligne. Donc, je ne suis pas plus malin qu'eux, et je ne vais pas vous dire le futur, et simplement, au contraire, de rappeler que les projections sur le futur seront toujours extrêmement risquées, même si on se doit de les faire. Et c'est le rôle du politique pour cela. Alors, me paraît-il, il est plus important de regarder les situations actuelles, et quand je vois les commentaires qui ont été faits, notamment sur les embouteillages dans les villes qui seraient résolus par des trains, je ne comprends pas très bien, parce que je ne vois pas très bien le lien entre les deux, et puis aussi le fait que on ne connaît pas notre présent, et c'est le cœur de ces émissions. Il me paraît utile de rappeler, je le fais assez souvent, que contrairement à ce qui est dit, la majorité de la population est, on dit souvent, la grande majorité de la population n'est pas urbaine, ou du moins elle n'est pas urbaine telle qu'on peut l'entendre habitant dans des villes denses, et que il s'agit simplement de, si on oppose le rural et l'urbain, effectivement, ce ne sont plus des populations paysannes ou des populations vivant de l'agriculture. L'économie a changé et on a effectivement un changement économique. Mais sur le plan de la vie dans laquelle les gens habitent, il ne s'agit pas d'une majorité de gens vivant dans les centres-villes, puisqu'en fait, la population qui vit dans les centres-villes est très faible par rapport à la population totale, je dois le rappeler. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 millions d'habitants à Paris, et que la spécificité de l'organisation de la géographie française fait que il y a un Grand Paris avec effectivement une zone très peuplée de 15 à 18 millions de personnes, en Île-de-France autour de cette ville capitale, et que nous n'avons pas l'armature de ville que l'on a en Italie, en Espagne, en Allemagne. Nous avons tout de suite des villes qui sont beaucoup plus petites et qui ne peuvent pas effectivement rivaliser avec ces villes européennes qui ont des populations qui sont égales ou plus grandes que celles de notre ville capitale. Donc tout de suite, on est à des chiffres beaucoup plus bas. Alors même si on considère l'agglomération de Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, on est à des chiffres qui sont très faibles. Alors de 500 000, on peut dire dans une agglomération très très élargie, mais qui inclut un grand nombre de villages qui n'ont rien d'urbain en tant que grande ville. La population des grandes villes à Toulouse, la population des grandes villes en France, et comme à Toulouse, bon, c'est 60 à 80 000 habitants qui vivent dans les secteurs denses, et encore, je pense, en étant assez large, parce que on va inclure des petites maisons, de la côte pavée, de la roseraie et des buscats qui ne sont pas très urbains non plus. Donc le centre-ville seul, il est comme à Paris, plutôt en perte d'habitants qu'en croissance, contrairement à ce qui est dit et ce qui est généralement annoncé dans les journaux, et surtout encore plus grave, par des experts entre guillemets et par les hommes politiques. Donc on a une fausse vision, et c'est pour cela que l'on a eu lors de la dernière campagne des municipales, des propositions qui me paraissent assez étonnantes, comme de mettre des portes pour le centre-ville de Toulouse, qui seraient des grands parkings, qui seraient de plus très visibles comme des gestes architecturaux, en fait les portes de la ville du Moyen-Âge, qui étaient effectivement intramuros, donc dans les murs, une ville où il y avait une concentration très importante à la fois des lieux du pouvoir et aussi des activités, artisanat, industrie, et évidemment un grand nombre de commerces qui étaient liés à cette densité de population dans les centres-villes. Donc aujourd'hui, les centres-villes dits historiques, ils sont pas plus historiques que le reste de nombreux quartiers, où, mais enfin disons que c'était la ville ancienne et qui nous est transmise, et la ville, on peut dire les villes capitales, les villes régionales capitales. Donc, de ce fait, on a toujours cette culture, ce passé qui doit être maintenu, enrichi, mais au point de vue des activités, on a vu au cours, on peut dire, de l'après-guerre, une grande partie des activités de la ville qui est partie, et aujourd'hui, on peut dire que ces villes sont des villes touristiques, et tout cela, d'ailleurs, on peut dire, accentué par la politique des centres-villes, notamment la piétonisation, qui peut être agréable pour certains, mais en tout cas, qui fait fuir le commerce traditionnel, ne sélectionne un type de commerce qui va être celui, on peut dire, des cafés, des restaurants festifs, des boutiques, on peut dire, de denrées pour les jeunes, etc. Et on a à peu près les mêmes choses qui se passent dans tous les centres anciens. Alors, il est évident que de parler des centres-villes denses est une erreur. Alors, le problème des transports, pour revenir à notre propos, ne peut pas être résolu par le train, puisque le train, c'est pour des déplacements de gare en gare avec des densités importantes. Il faut rappeler aussi que par rapport à ce que je disais en début de l'émission, il y avait une nécessité de concentrer les activités du fait de la cherté des transports, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc on se trouve dans un monde beaucoup plus, on peut dire, éparpillé. Ça peut être vu pour certains pour quelque chose de négatif, mais enfin, je pense que c'est ainsi. Alors, on peut effectivement souhaiter une plus grande planification au niveau des implantations qui dépendent de l'État et aussi des incitations, ce qui n'est pas le cas puisque la politique urbaine se limite à l'embellissement de ces centres minuscules anciens avec un abandon complet de toute l'armature de villages alentour qui sont les supports d'activités diverses sans que l'on ait une grande planification. Donc s'il n'y a pas de planification sur les activités, il est évident que c'est très difficile d'avoir une planification pour les transports. Donc le problème des transports collectifs, puisque c'était le sujet de l'émission, ça dépendrait, à mon sens, d'une planification qui serait beaucoup plus importante. De plus, on peut penser que le mode de transport en train, comme je vous disais, qui a été un grand progrès, n'est pas forcément, même si on aime coller l'étiquette verte, qui me paraît assez injustifiée, n'est pas là, vu le coût de la collectivité. Les investissements pour la SNCF, il faut quand même le rappeler, c'est quand même les des investissements très très lourds qui ont atteint ces dernières années, on est près de 60 milliards et il y a, paraît-il, 100 milliards de travaux pour remettre à niveau les réseaux de voies ferrées. Tout cela, c'est des sommes qui sont très importantes et il faut quand même rappeler que les transports par chemin de fer ne représentent que 7,4% des transports, la voiture 83,3% et le bus 5%. Donc, on est sur très peu de déplacements qui sont faits en train, et aussi que les personnes qui emploient les trains d'une manière régulière représentent qu'une partie faible de la population, 17%. Donc, ces investissements qui sont des investissements de la collectivité tout entière pour cette minorité, bon, alors on va me dire, mais c'est vertueux. Oui, d'accord, vertueux, mais comme je vous disais, les trains ne marchent pas avec du vent, donc ces investissements doivent être renouvelés. Il y a quand même beaucoup d'énergie qui est demandée, et que si on fait le bilan de toutes les rénovations et toutes ces travaux, etc., on se trouve avec un bilan énergétique, si je n'aime pas parler de bilan carbone, mais enfin un bilan énergétique qui est très important. Donc c'est peut-être aussi une solution du passé, en tout cas en termes génériques, qui est d'une très grande efficacité sur les grandes lignes, alors les TGV, il est évident que c'est irremplaçable, mais que par contre, refaire, rénover les anciennes lignes qui ont été abandonnées, je doute fort que le train, du fait justement de son obligation d'être de ce que l'on appelle le multimodal, d'avoir l'obligation d'avoir plusieurs moyens de transport à apporter, n'est pas l'essentiel. Alors comme je n'ai pas la boule de cristal et que je me refuse à faire ce que a fait Michel Aragon qui m'a gentiment donné le titre de mon émission Où vivrons-nous demain, je ne vais pas vous dire comment nous transporterons nous demain, mais on peut dire que il y a certainement des moyens aujourd'hui, comme je vous disais pour les transports routiers, on a sur le principe de la logistique, celui qu'emploie Amazon par exemple, qui sont des multitransports, on pourrait avoir aussi des systèmes reliés à l'informatique, ça existe déjà d'ailleurs avec Uber, ou des initiatives, on peut dire, privées, où on a un covoiturage qui est facilement accessible par les smartphones, et on pourrait supposer qu'il y ait des réseaux beaucoup plus souples de bus électriques, de transports beaucoup plus adaptés à une demande qui serait pas régulière, puisque effectivement ce mode pendulaire ne correspond pas, je crois, à la société qui arrive, ou même déjà à la société présente. Donc on est obligé et on sera obligé de trouver des modes plus complexes. Donc je crois que les prévisions sur les transports, il faut s'en méfier, parce que prenons les exemples des prévisions précédentes où on s'est toujours trompé. Donc je suis d'une prudence extrême. Je vous souhaite une bonne semaine. La société qui arrive, ou même déjà à la société présente, donc on est obligé, et on sera obligé de trouver des modes plus complexes. Donc je crois que les prévisions sur les transports, il faut s'en méfier, parce que prenons les exemples des prévisions précédentes où on s'est toujours trompé. Donc je suis d'une prudence extrême. Je vous souhaite une bonne semaine.